22h20 sur Europe 1, on passe à l'interview écho. Emmanuel Dutheil, c'est à vous.
Bonsoir Christopher Dambic.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le chef économiste de Saxo Bank. Alors si on a voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est que le Bitcoin, qui est la première crypto-monnaie décentralisée, a dépassé pour la toute première fois de son existence les 20 000 $. Et plus largement, ces dernières semaines, elle a littéralement bondi, hein, puisque elle a quasiment triplé sa valeur en un an. Ma première question va être extrêmement simple. Pourquoi ?
En fait, on a eu beaucoup de phénomènes qui ont expliqué cela. Il y a eu tout d'abord, pour expliquer cette forte hausse, bien sûr la pandémie, et donc les investisseurs ont cherché d'autres alternatives aux investissements qui étaient un peu classiques. Par investissement classique, j'entends par exemple investir en bourse, dans les actions, dans les valeurs des entreprises. Donc on a eu ce phénomène-là. Et on a eu un autre phénomène qui a eu un effet extrêmement important sur les 6-7 derniers mois, c'est qu'on a eu ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Concrètement, ce sont des très grandes entreprises, typiquement des fonds de pension, des grandes sociétés financières américaines, typiquement BlackRock, qui ont aussi décidé d'investir dans les crypto-monnaies, se disant ça peut être un investissement qui est intéressant parce qu'effectivement, on a eu une hausse qui a été phénoménale sur les derniers mois. Pour vous donner juste un ordre de grandeur, quelqu'un qui investissait en France, en euros, sur le Bitcoin au début d'année, aurait eu une appréciation de plus de 160% de son investissement. Donc concrètement, un retour sur investissement de 160%, il n'y a quasiment rien qui offre cela à l'heure actuelle sur un laps de temps si court.
Oui, et puis je crois aussi ce qui a aidé au fait que les cours montent fortement pour le Bitcoin, c'est que plus que jamais, le Bitcoin entre dans notre vie tous les jours, puisque je crois que par exemple, PayPal, qui est un des très très grands noms du paiement en ligne, permet maintenant d'utiliser des Bitcoins.
Complètement. Finalement, ce qu'on avait vu il y a quelques années de cela, on a eu aussi quelques hausses, quelques intérêts du grand public sur le Bitcoin. Mais là, on voit que c'est vraiment un phénomène de fond. C'est pas un épiphénomène où finalement, deux, trois semaines après, l'intérêt diminue. Ce qu'on a constaté, c'est que des grands acteurs du numérique, effectivement, typiquement PayPal, des petites entreprises aussi, si vous allez dans certaines grandes villes, acceptent le Bitcoin. Vous avez aussi les banques centrales qui aujourd'hui s'intéressent aux monnaies virtuelles, aux crypto-monnaies. Donc, finalement, il y a un consensus au niveau des différents acteurs, et notamment vraiment des entreprises, sur le fait qu'il faut accepter le Bitcoin puisque c'est un moyen de paiement, finalement, comme un autre, à l'instar, bien sûr, de nos fameux billets ou notre carte bancaire en euros.
Mais est-ce que c'est aussi sûr que tout cela? Parce qu'il faut peut-être rappeler à la naissance du Bitcoin, ça arrive en 2008, c'est un réseau qui a été inventé par des anonymes qui ne dépendent d'aucune institution. Est-ce qu'on peut avoir confiance, tout simplement, dans le Bitcoin?
Alors très clairement, je n'inciterai personne à du jour au lendemain décider de se délester de ses euros et de uniquement faire à des achats ou investir en Bitcoin. Le problème aujourd'hui du Bitcoin, c'est que l'évolution du prix est extrêmement importante. Concrètement, il y a beaucoup de volatilité. Je vous l'ai dit, en euros, on a eu quand même une hausse de 160% depuis le 1er
janvier. Mais rien que ça, ça paraît fou, puisque on sait, il y a une expression dans le domaine de la bourse qui dit que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Là, on a l'impression qu'on n'en est pas loin du ciel.
Complètement, mais le ciel aussi peut nous tomber sur la tête assez rapidement et on l'a connu par le passé, c'est-à-dire après des fortes, fortes envolées du Bitcoin, vous avez ensuite une forte baisse, donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent et on doit rester attentif. Grosso modo, on sait très bien que les monnaies virtuelles type Bitcoin, et il y en a d'autres, feront partie de la vie de tous les jours dans quelques années, mais si on souhaite gagner de l'argent en investissant sur le Bitcoin, soyez très prudent et investissez pas des sommes importantes.
Mais en quoi on aurait besoin de ces crypto-monnaies, de ces monnaies décentralisées, de ces monnaies dématérialisées dans l'avenir? En quoi c'est une alternative utile?
Alors vous avez un intérêt qui est complètement immédiat pour tout le monde, c'est-à-dire que aujourd'hui, si vous voulez faire par exemple un transfert international, par exemple de la France vers l'étranger, et si vous utilisez la technologie Bitcoin, donc grosso modo c'est la blockchain, mais Bitcoin ou n'importe quelle autre monnaie virtuelle, vous le faites en un laps de temps extrêmement réduit et pour un coût beaucoup plus faible que vous ne le feriez en temps habituel en recourant à votre banque. Donc ça c'est un élément qui est quand même très important et surtout vous avez quand même une partie de la population, il faut pas nier, une partie de la population qui est aussi indécise par rapport aux autorités, par rapport aux monnaies effectivement qui sont émises par les gouvernements et se disent ça peut pas durer toujours et il faudra utiliser d'autres monnaies. Donc il y a cet intérêt quand même pour le Bitcoin d'une partie qu'on appelle des libertaires concrètement.
On sait aussi que de nombreux acteurs voulaient lancer leur propre crypto-monnaie. On a beaucoup parlé de Facebook et du Libra. On a l'impression que le projet est un peu entre parenthèses en ce moment.
Ah, complètement, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on a eu des gros acteurs qui se sont désengagés du projet. Vous avez quand même beaucoup d'incertitudes, parce que finalement, entre ces grands acteurs, il y a des enjeux de pouvoir pour chaque entreprise qui est concernée. Dans le même temps, on a quand même les États aussi qui surveillent de très près ce développement des monnaies virtuelles, des crypto-monnaies, parce que concrètement, c'est vrai que ça met, c'est un risque pour la souveraineté des États lorsque vous avez des crypto-monnaies qui sont émises par des grandes entreprises, notamment du numérique américain. Donc, le risque aujourd'hui sur ces crypto-monnaies, c'est finalement qu'il y ait un vent contraire lié à la régulation étatique et du jour au lendemain qu'on souhaite beaucoup plus encadrer l'émission de ces crypto-monnaies. Et c'est un risque qui est vraiment pris en compte aujourd'hui par beaucoup d'acteurs.
Vous allez peut-être trouver ma question débile, Christopher Dembick, mais il y a autant de Bitcoin que l'on en voudrait, on peut en créer autant que l'on veut, ce qui serait extrêmement dangereux, ce que l'on appelle la masse monétaire, si elle était incontrôlée.
Alors justement, ça c'est un point qui est extrêmement important par rapport aux monnaies de tous les jours émises par les banques centrales, c'est que c'est dans le dispositif qui a été prévu à son lancement, en fait, la masse monétaire est limitée. Donc, grosso modo, en fait, vous ne pouvez pas avoir une émission de Bitcoin à l'infini, ce qui pourrait éventuellement créer de l'inflation et ce qui est effectivement négatif pour le pouvoir d'achat des ménages. Donc, c'est vraiment une spécificité aussi du Bitcoin, très différente des monnaies émises par les banques centrales et qui fait que vous avez des gens qui considèrent que le Bitcoin est aussi un bon moyen d'éviter des fortes périodes d'inflation.
Eh bien, merci beaucoup pour tous ces détails. C'était Christopher Dembick, le chef économiste de Saxo Bank, qui était avec nous ce soir en ligne sur Europe 1. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci beaucoup, Emmanuel Duteil. Emmanuel, que l'on retrouvera demain à partir de 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Chaque jour, un grand patron nous raconte comment il se réinvente face aux défis actuels. Demain, ce sera le président de Promo.